Première épître à Timothée, chapitre 1. On relira les deux premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon le commandement de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus, notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi, grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Comme je t'ai prié de rester à Éphèse lorsque j'allais en Macédoine, afin que tu ordonnasses à certaines personnes de ne pas enseigner des doctrines étrangères et de ne pas s'attacher aux fables et aux généalogies interminables qui produisent des disputes plutôt que l'administration de Dieu qui est par la foi. Or, la fin de l'ordonnance, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère, desquels quelques-uns s'étant écartés, se sont détournés à un vain babil, voulant être docteurs de la loi, n'entendant ni ce qu'ils disent, ni ce sur quoi ils insistent. Mais nous savons que la loi est bonne, si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété et les profanes, pour les batteurs de père et les batteurs de mère, pour les homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et s'il y a quelque autre chose qui soit opposée à la saine doctrine. Suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié. Et je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux, mais miséricorde m'a été faite, parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Mais miséricorde m'a été faite, à cause de ceci, savoir afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montra toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Or qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi, du nombre desquels sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.
La dernière fois, nous avons introduit cette épître et parlé des deux premiers versets. Nous avons dit que Timothée était le fils d'un père grec, une mère juive, et la première mention de Timothée, c'est dans les Actes au chapitre 16, où l'on apprend qu'il a rencontré Paul dans son premier voyage à Lystre et l'a suivi lors de son second voyage. Timothée avait sa vie et sa relation personnelle avec le Seigneur et était très proche de Paul. On le voit quand il l'appelle « mon enfant Timothée » par exemple. Ou en 2 Timothée 3, « tu as pleinement compris ma doctrine, mon but constant, etc. La première épître à Timothée, c'est une épître instructive, on a dit, et non pas corrective comme d'autres. Elle est écrite bien plus tôt que la seconde épître à Timothée, qui est écrite à la fin de la vie de Paul. C'est l'épître de la piété, parce que nous voyons revenir souvent la foi, la conscience, le cœur, etc. Elle nous présente un modèle du fonctionnement de la maison de Dieu jusqu'à la venue du Seigneur, avec une alternance entre des enseignements personnels à Timothée, que nous pouvons nous-mêmes recevoir comme lui l'a reçu, comme membre de la maison de Dieu, et une présentation du fonctionnement de cette maison, qui est adressée à tous et à plusieurs catégories de personnes, comme finalement comme si nous la visitions. Mais nous voyons en filigrane, tout au long de cet épître, la maison de Dieu. Nous avons rapidement introduit les chapitres, tous les chapitres. Nous avons dit que le chapitre 1 nous indique la porte d'entrée de cette maison. Au verset 14, la grâce, la foi et l'amour nous font entrer dans la maison de Dieu. Le chapitre 2 nous introduit dans la maison et nous montre que dans cette maison, eh bien, il y a des hommes et des femmes dont le témoignage visible et exprimé, c'est que cette maison est ouverte à tous ceux qui veulent être sauvés. C'est une maison de prière. Le chapitre 3 nous montre plus précisément le caractère des membres de la maison, qui sont ceux, les caractères du Seigneur qui les a sauvés. Le chapitre 4 nous montre la manière dont l'Esprit de Dieu parle au travers des instruments appropriés par la parole de Dieu. Il nous parle de l'Esprit de Dieu en particulier. Et les chapitres 5 et 6 donnent des détails pratiques pour que le témoignage public et extérieur de tous soit intègre et ordonné. On a parlé des deux premiers versets, je rappelle juste les expressions considérées, sans détailler. On a parlé en particulier du Christ Jésus, notre espérance, et de l'expression grâce, miséricorde, paix.
Verset 3, donc nous voyons que l'apôtre Paul prie Timothée à rester à Éphèse alors qu'il partait lui-même en Macédoine. Et donc, il laisse une mission à Timothée au sein de l'assemblée qui est à Éphèse. Devons-nous nous souvenir que l'épître aux Éphésiens a été écrite dans les années 60-62, d'après les historiens. Et la première épître à Timothée se situe dans l'an 64-65, c'est-à-dire qu'il y avait 3 à 4 années environ entre l'épître aux Éphésiens et la première épître à Timothée. Nous nous souvenons que des enseignements de l'épître aux Éphésiens, c'est l'épître qui est la plus élevée, qui nous parle de la position céleste de l'Église. Et nous voyons que l'apôtre avait pu écrire cette épître tout à fait remarquable en relation avec le bon état de cette assemblée. Quelques années sont passées et nous lisons dans les premiers versets, du verset 3 au verset 6, qu'il y avait des enseignements dans cette assemblée, des doctrines étrangères qui étaient enseignées, des fables, des généalogies interminables qui produisaient des disputes au sein de cette assemblée. Au verset 6 et 7, nous voyons que dans cette assemblée, à Éphèse, des croyants s'étaient écartés et il y avait aussi des docteurs de la loi, c'est-à-dire que l'enseignement de la grâce était mélangé avec la loi. Et nous allons sans doute revenir sur ce fait que la grâce, bien sûr, elle ne concerne nous qui nous sommes sauvés et la loi concerne les incrédules. Alors, comme il a été dit dans le résumé, nous voyons que l'apôtre Paul donne un double commandement à Timothée. Un premier commandement pour lui-même et un autre commandement pour les chrétiens qui étaient à Éphèse. Nous lisons au verset 3, « Donc Timothée était laissé à Éphèse afin que tu ordonnasses à certaines personnes de ne pas enseigner des doctrines étrangères. » Au chapitre 4, au verset 11, nous voyons l'apôtre qui dit à Timothée, qui écrit à Timothée, « Ordonne ces choses et enseigne-les. » Au chapitre 5, au verset 7, il nous est dit aussi, « Ordonne aussi ces choses afin qu'elles soient irrépréhensibles. » Au chapitre 6, verset 17, il nous est dit « Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en jouir. » Donc, l'apôtre Paul écrit cette première épître à Timothée avec son autorité d'apôtre et il avait reçu, selon le commandement de Dieu, notre Sauveur et du Christ Jésus, ce ministère et il communique à Timothée, qui était le délégué de l'apôtre, de rester à Éphèse afin de mettre de l'ordre dans cette assemblée. De l'ordre en rapport avec des doctrines étrangères, des choses qui étaient ajoutées à la vérité et qui ne convenaient pas à l'assemblée du Dieu vivant.
Pour situer ce que cela veut dire, ces doctrines étrangères, ces fables, généalogies interminables, c'est quelque chose qui n'est pas propre à ce que Timothée, ce à quoi Timothée était confronté à Éphèse. On le retrouve déjà quelque chose dans le même esprit dans les évangiles auxquels le Seigneur lui-même a fait face. Si je prends juste un exemple, un passage que dans Marc, on peut prendre par exemple Marc 12, dans les débats que le Seigneur a avec les chefs du peuple, avec les pharisiens. Là, il s'agit, je pense, au passage verset 18 et suivant, Marc 12, 18, où ce sont les Sadducéens qui entreprennent le Seigneur, et où le début de ce paragraphe nous dit bien, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection viennent à lui et l'interrogent. Donc il y a déjà un a priori d'un refus d'un enseignement de l'Ancien Testament. Et pour montrer ce qu'ils pensent être une absurdité, ils ramènent une histoire, une fable. Moïse nous a écrit que si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme et ne laisse pas d'enfant, ses frères prennent sa femme et suscitent la postérité à son frère. Il y avait sept frères, le premier prit une femme, etc. Verset 22, et les sept la prirent et ne laissèrent pas de postérité. La dernière de tous, la femme aussi mourut. Dans la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les sept n'ont eu pour femme. Ils pensent pouvoir piéger le Seigneur Jésus en montrant que cette idée de résurrection ne tient pas debout parce que, voilà, cette histoire qui leur est arrivée, était-elle réelle ou inventée pour la circonstance, on n'en sait rien, on espère au moins que ce n'était pas un mensonge. Mais en tout cas, voilà une de ce genre de fables avec derrière la volonté de défendre une doctrine qui n'est pas l'enseignement de la parole. Et ce que le Seigneur doit leur dire en réponse est solennel. Jésus répondant leur dit, « N'est-ce pas à cause de ceci que vous errez, c'est que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Deux facettes importantes qu'on peut retrouver dans notre passage que par rapport à ces mises en garde, cette répréhension que Timothée doit faire. Est-ce que ce qui est enseigné est selon la parole et en accord avec ce qu'est Dieu? Dieu dans sa puissance, Dieu dans Dieu lumière, Dieu amour, Dieu tout-puissant. On peut prendre plusieurs caractères fondamentaux comment Dieu se révèle à nous. Voilà. Est-ce que ces doctrines étrangères, ces fables, ces généalogies interminables, s'agit-il de constructions humaines ou s'agit-il de quelque chose qui émane de la parole? Et c'est bien là l'exercice qu'il nous faut toujours avoir par rapport à tout enseignement. Et l'instruction là de Paul à Timothée, c'est qu'il doit ordonner. Il y a un ordre, une autorité qui lui est donnée pour ordonner de cesser ce genre de choses, pour préciser formellement que ce genre d'enseignement n'ont pas leur place. Et pour cela, il faut les discerner. Et associé à ça, il est pu aller plus loin de certains qui veulent être docteurs de la loi. Derrière ce genre de doctrine étrangère, de fable, de généalogie interminable, il y a une volonté d'imposer des règles, de replacer le croyant sous une règle, sous une loi. Des commandements qui ne trouvent pas leur fondement dans la parole et qui n'ont plus lieu d'être pour le chrétien qui est sous l'économie de la grâce. Alors c'est quelque chose d'assez sérieux. Et c'est quelque chose d'assez sérieux, d'autant plus, comme Michel l'a rappelé, il s'agissait d'Éphèse, une assemblée qui avait reçu un enseignement particulièrement élevé, particulièrement précieux. Si on reprend juste quelques expressions du début de l'Épître aux Éphésiens, des expressions qu'on aime beaucoup relire. Au chapitre 2, par exemple, on peut lire versets 4 et suivants. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce. Et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Cet enseignement du seul fondement de la grâce, les Éphésiens avaient particulièrement reçu cet enseignement, présenté dans toute une richesse et d'une manière tellement précieuse. Et là, il y avait au milieu d'eux certaines personnes qui voulaient ramener de nouveau des ordonnances, de la loi, et cela basé, le terme est très fort, doctrine étrangère à l'enseignement de la parole, étrangère à Dieu. Des fables, le terme de fable est très fort aussi. Des fables, c'est des choses qui sont inventées, qui peuvent être séduisantes pensons à toutes les fables, par exemple, des livres pour les enfants. C'est des histoires qui peuvent être amusantes, qui peuvent être passionnantes, mais on sait très bien en les lisant que c'est des inventions. Et là, on voudrait fonder la base de la vie chrétienne sur des fables, et puis des généalogies interminables. Alors le terme de généalogie n'est peut-être pas à prendre dans le sens où nous l'utilisons habituellement, mais je ne saurais pas trop comment il faut le préciser, mais l'interminable nous parle bien de quelque chose où on se perd, où on s'en mêle, on n'y comprend plus à la fin qu'est-ce qui était le début. On ne comprend pas à quoi ça doit mener. Voilà. Il y a quelque chose à travers toutes ces expressions, quelque chose de très sérieux dans le sens d'un enseignement qui apporte, bien sûr, le désordre, mais quelque chose de plus, c'est qu'il sème le trouble. Celui qui écoute cet enseignement, ce mauvais enseignement, se retrouve perdu, ne sait plus où il en est. C'est le contraire de ce que doit être un enseignement fondé sur la parole, conduit par l'Esprit, qui tourne les regards et les cœurs vers le Seigneur.
La présentation de doctrines étrangères dans l'Assemblée menaçait au fond la saine doctrine, la vérité, ce que enseignait la parole de Dieu. Et nous savons que le diable cherche toujours à corrompre la vérité. Et l'histoire a commencé, bien sûr, du temps des apôtres et elle continue aujourd'hui. Alors, les fables, ce sont des choses imaginaires qui sont transmises par tradition. Et fables, en grec, c'est le même mot que mythe, des mythes, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas. Et donc, d'après ce qu'on peut comprendre, c'est que l'enseignement de la vérité était, était ajouté des fables, des choses qui venaient de l'imagination humaine, c'est-à-dire au fond ce n'était pas la vérité, la pure vérité, mais c'était des choses qui étaient mélangées, C'est-à-dire que le diable ne s'attaque jamais à la vérité d'une manière frontale, mais il mêle toujours à la vérité des choses qui viennent de l'imagination des hommes. Donc les fables, c'est des mythes, c'est des choses qui n'existent pas et qui sont transmises quand même chez les hommes de génération en génération. Les généalogies interminables, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jacques, il ne s'agit pas de rechercher nos ancêtres en établissant un arbre généalogique. Mais le mot généalogie a un deuxième sens, un sens philosophique. C'est-à-dire qu'une généalogie, c'est la recherche des causes d'un concept ou d'une idée dans le monde. C'est-à-dire, voilà, il y a un concept chez les hommes qui vient. On peut donner un exemple, l'union. Et le désir des hommes, c'est d'être unis ensemble. Je ne parle pas de l'enseignement de la parole de Dieu sur le sujet, mais l'union entre tous les hommes, c'est un concept. Et la généalogie, c'est la recherche, au fond, comment est venu ce concept, comment ce concept a été créé. C'est-à-dire qu'au fond, les hommes recherchent les causes d'une idée, mais en mettant Dieu de côté. C'est-à-dire, au fond, on cherche l'origine, la généalogie, l'origine des choses, mais dans l'esprit des hommes, dans l'esprit humain. Et donc ce sont des choses interminables qui sont le fruit de discussions, de disputes, parce que les hommes ne sont jamais d'accord sur l'origine de tel ou tel concept ou de telle ou telle idée. Et donc mélanger l'imagination humaine, que ce soit par ses généalogies ou par ses fables, eh bien, au fond, c'est détourner les croyants de la vérité. C'est détourner les croyants de la parole de Dieu. Et nous devons toujours faire attention à ce qu'exprime la vérité, la parole de Dieu. La vérité, elle est immuable et elle est révélée uniquement dans la parole de Dieu et nous n'avons rien à ajouter de notre propre imagination. Et nous voyons que c'était d'une manière, nous allons dire, non pas frontale, mais le diable était là déjà à l'origine du temps des apôtres pour remettre en question le saint enseignement, la vérité qui est donnée par Dieu, qui nous a été donnée par Dieu, par la parole de Dieu.
Peut-être juste pour donner un faible exemple dans la parole de généalogie, la généalogie des idées, c'est aussi une façon de justifier qu'une idée est plus forte qu'une autre, qu'elle soit. Et on cherche la paternité de l'idée, qui c'est qui l'a produite. Il y a un exemple dans 1 Corinthiens 3, verset 4, qui est très faible. Au verset 4... Voilà où c'est Paul le reprend aussi. Car quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et l'autre « Moi, je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Donc là, voilà, on voit un exemple de recherche de généalogie. D'où vient une idée ? D'où vient la doctrine ? Voilà, elle vient de Paul, elle vient d'Apollos. Ce sont des fausses questions. car tout doit venir d'être fondé dans la parole et dans l'épître de Tite, au chapitre 3, c'est une très vite expression où il y a un verset qui est assez similaire, mais éviter les folles questions et les généalogies et les contestations et les disputes sur la loi, car elles sont inutiles et vaines.
En Tite, il est dit d'éviter, et elles sont inutiles et vaines. Ici, il est dit d'ordonner de ne pas enseigner, parce que là, on en est beaucoup plus loin, si on peut dire. La conséquence est beaucoup plus forte, milieu du verset 4, elles produisent des disputes plutôt que l'administration de Dieu qui est par la foi. Ou si on prend d'après la révision de Valence, c'est dit d'une manière un peu plus actuelle, qui produisent des discussions plutôt que la réalisation du plan de Dieu qui est par la foi. Le terme administration n'est pas toujours bien limpide à comprendre. Il est parlé de discussion ou de dispute. Le passage de la discussion à la dispute est quelque chose d'assez flou. On bascule assez facilement de l'un à l'autre. C'est vain. Mais ça a deux conséquences. Une qui est dite explicitement là, c'est que... j'ai perdu la ligne, ça n'amène plus, ça empêche la réalisation du plan de Dieu qui est par la foi. Et l'autre conséquence, c'est bien sûr, pas mentionné directement là, c'est le trouble. Quand il y a discussion, quand il y a dispute, il y a du trouble. Donc, le passage de Tite est intéressant justement parce qu'il montre, dans le cas de Tite, c'est éviter. Ici, on en est un stade beaucoup plus avancé. La chose est beaucoup plus grave, avec des conséquences beaucoup plus graves.
On peut peut-être relever les caractères qui sont derrière ces mots. Pour notre profit, parce que nous voyons bien que ce sont des choses qui peuvent très vite nous arriver, de vouloir même expliquer la parole avec des fables et des généalogies interminables. On peut dire que, on l'a dit, les fables sont le fruit de notre imagination, ce que nous aimerions rajouter à la parole pour peut-être mieux la faire comprendre, mais qui finalement est juste de l'imagination. Il gagne très vite sa limite. Généalogie interminable, est-ce qu'on n'a pas tous fait l'expérience de cette situation où nous désirons mieux comprendre quelque chose dans la parole et nous cherchons dans notre logique, notre raisonnement et notre intelligence humaine, pourquoi tel verset est ici et pourquoi tel verset ce n'est pas dit plutôt cela. Voilà, ce sont deux caractères peut-être qui sont présentés ici, l'imagination et notre logique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces choses-là, nous pouvons très bien les avoir, même en tant que croyant, même si nous n'avons pas, comme au verset 5, un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Même si nous ne sommes pas dans cette disposition-là devant Dieu, nous pouvons avoir ces raisonnements et ces fables. Mais... ce qui est à la fin du verset 4 est tellement plus beau. L'administration de Dieu qui est par la foi. Voilà quelque chose qui ne produit pas de dispute. Et peut-être que ce qu'il y a derrière ces versets, c'est derrière la foi, nous le savons, ce sont les paroles qui touchent notre cœur et notre conscience. Et cela peut être pour nous un bon test, une bonne habitude. Est-ce que ce qui est dit est adressé à mon cœur et à ma conscience? Si c'est adressé à mon cœur et à ma conscience, je peux ne pas le recevoir, mais cela vient certainement de la part de Dieu pour l'administration de Dieu, et mon rôle maintenant, c'est de le prendre par la foi. Et alors, nous avons de l'édification.
Il faut comprendre que les fables, les mythes, les doctrines étrangères, elles nous éloignent de Dieu. Tout ce qui vient de l'homme, tout ce qui vient de l'imagination des hommes nous éloigne de Dieu. Tandis que la vérité qui est maintenue dans l'assemblée, nous rapproche de Dieu. C'est-à-dire, au fond, c'est la vérité qui nous met au contact de Dieu lui-même. C'est par la vérité que je comprends qui est Dieu, que Dieu est mon sauveur, c'est le Dieu sauveur. Je comprends par la vérité que Christ est le moyen que Dieu a donné pour nous approcher de lui, pour être sauvés. Et au fond, la vérité met l'âme en contact avec Dieu, tandis que tout ce qui vient des hommes nous éloigne de Dieu. Et au fond, le problème qui surgissait à Éphèse à travers ces fausses doctrines, ces doctrines étrangères, ces choses qui venaient de l'imagination humaine, eh bien, les âmes de l'assemblée à Éphèse insensiblement s'éloignaient de Dieu. Et le but au fond de l'apôtre, en envoyant Timothée comme délégué, ou en laissant Timothée comme délégué dans cette assemblée d'Éphèse, c'est pour que les âmes des croyants et des croyantes soient en contact avec Dieu. Si nous ne sommes pas journalièrement en contact avec Dieu, c'est ça la piété dont il va être parlé un petit peu plus loin, eh bien nous allons nous éloigner de Dieu. Et collectivement, nous allons nous éloigner de Dieu. Et au fond, le désir de l'apôtre, c'est que la vérité qui nous rapproche de Dieu, qui nous met en contact avec Dieu, que cette vérité soit saisie par la foi pour produire ces heureux effets dont il est parlé, le cœur pur, la bonne conscience et la foi sincère. Ce n'est que la vérité de Dieu qui produit de tels effets. Tout ce qui vient des hommes, tout ce qui vient de l'imagination des hommes nous éloigne de Dieu. Si nous raisonnons sur la vérité avec notre propre esprit, notre libre arbitre, comme disaient les frères autrefois, eh bien, nous allons nous éloigner de Dieu. Il n'y a que la vérité qui nous approche de Dieu. Ce verset 5, c'est un verset extraordinaire. Et c'est un verset qui se trouve juste au milieu entre les fables et les généalogies, et puis les docteurs de la loi qui s'étaient détournés à un vain Babil, etc. Et au fond, ce que l'apôtre demande à Timothée, c'est au fond quel est le but final, le but que se propose l'apôtre Paul dans la mission qu'il donne à Timothée. Eh bien, ce n'est pas de produire une orthodoxie de doctrine parmi les saints à Éphèse, non. Mais le but au fond, c'est que il y ait ce bon ordre intérieur dans les croyants. C'est-à-dire au fond que la vérité soit reçue et qu'elle produise donc ces caractères moraux qui sont indispensables pour la vie de l'assemblée de Éphèse. L'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, eh bien c'est un état intérieur qui devrait être produit en chacun de nous, d'abord avant de s'occuper du bon ordre intérieur d'une assemblée. Le but, la fin de l'ordonnance, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Au fond, la mission de Timothée est d'abord d'un ordre moral vis-à-vis de chacun des chrétiens, de chacun des croyants et des croyantes de l'assemblée d'Éphèse. Le but, ce n'est pas une orthodoxie de doctrine avec, comme on l'a exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire des règles à suivre pour qu'il y ait un bon fonctionnement de l'Assemblée. Ça, c'est sans doute le but final, mais ce but, il passe par mon être intérieur, à chacun de nous, à notre être intérieur, et il faut d'abord que la vérité touche mon cœur, touche ma conscience, afin que mon cœur soit en ordre, c'est-à-dire que je n'ai pas d'idole qui prenne de la place dans mon propre cœur. Cet ordre moral aussi passe par une conscience, une bonne conscience, c'est-à-dire que je juge mes voies, que le mal n'entre pas dans mes voies. Et puis la foi sincère, une foi sans hypocrisie, qui compte sur Dieu dans tous les moments de notre vie, à chacun, journalièrement. Eh bien, au fond, ce que l'apôtre demande à Timothée pour cette mission, c'est que les croyants à Éphèse, eh bien, qu'ils soient d'abord dans ce bon état moral en recevant la vérité dans le cœur et dans la conscience. Et dans un deuxième temps, eh bien, si chacun de nous, nous recevons la vérité et qu'elle produit ses heureux fruits dans notre vie à chacun, eh bien, nous allons avoir le désir qu'il y ait ce bon ordre dans l'assemblée, parce que c'est l'assemblée de Dieu, parce que Dieu y habite. C'est son assemblée, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes chez lui. Mais cela passe toujours avant tout par un bon ordre moral intérieur à chacun de nous.
On peut noter que ces trois expressions, un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère, sont chaque fois l'adjectif qui caractérise la notion, disons, j'aime pas tellement ce mot, mais vous comprenez, je ne sais pas trop comment le dire pour être... Je dis autrement, la conscience La parole nous rend souvent attentifs, je n'ai pas de passage là qui me vienne à l'esprit, qu'au fond la conscience est quelque chose de, je mets des guillemets, relatif. Notre conscience a besoin d'être formée par Dieu. Un incrédule qui est nous-mêmes quand nous étions inconvertis, mais ayant prêté un peu attention à la parole de Dieu, nous avions une certaine conscience de choses qui conviennent ou qui ne conviennent pas devant Dieu. Mais cette certaine conscience qu'on avait, elle n'était largement pas à la mesure de Dieu. Cette conscience avait besoin d'être formée par la parole de Dieu pour être en accord avec la pensée de Dieu, avec ce que Dieu est. Et cette conscience, elle peut être faussée. Si je me mets à m'occuper de choses mauvaises et que je laisse la parole de côté, ben ma conscience va être émoussée. Donc une bonne conscience, ça nous parle d'une conscience qui est en contact permanent avec Dieu, avec le Seigneur, pour être maintenue bonne. Pareillement, une foi sincère. Là, il y a un exemple très parlant. Quand David a voulu amener là à construire une maison pour l'arche, il était tout à fait sincère. Mais il n'avait pas la pensée de Dieu. Il avait une bonne pensée, mais ce n'était pas la pensée de Dieu. On peut très sincèrement se tromper. La sincérité en elle-même a besoin d'être éprouvée, affinée par l'action de la parole de Dieu, de l'Esprit Saint. Et pareillement, le cœur pur, c'était la première pensée, la pureté du cœur, c'est un cœur qui doit être nettoyé de tout ce qui le souillerait. Pareillement, là, c'est Dieu, c'est l'action de Dieu, l'action de la parole, l'action de l'esprit, qui seul peut amener ce cœur à être un cœur pur. C'est quelque chose qu'il nous faut nous rappeler toujours. Nous n'avons pas là quelque chose d'absolu parce que nous avons reçu le Seigneur Jésus. Un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère, c'est quelque chose qui demeure comme cela quand c'est entretenu, par ce contact permanent, par cette relation permanente. Et à la fin du verset nous le dit bien, qui est par la foi ? C'est cette démarche de foi permanente, la foi qui est un mélange de confiance et de soumission, avec encore probablement d'autres choses qu'on peut ajouter, mais je pense à ces deux caractères en particulier, la soumission à quelque chose qui vient de Dieu et que je ne comprends pas forcément, mais que je reçois dans la soumission et dans la confiance parce que je sais que Dieu est amour et que Dieu m'aime et que ce qu'il me dit, ce qu'il m'enseigne, ce qu'il veut opérer en moi, c'est dans son amour qu'il veut le faire. Alors je me soumets parce que je ne comprends pas et je lui fais confiance parce que je sais que c'est pour mon bien et qu'un moment viendra où je le comprendrai. Peut-être que ce n'est pas sur la terre, peut-être que ce sera près du Seigneur, j'en sais rien. Mais voilà, cette foi qui est le moyen quotidien, le moyen permanent, si je peux dire, pour entretenir ce cœur pur, cette bonne conscience, cette foi sincère.
Nous voyons que l'apôtre Paul, pour l'apôtre Paul, c'était très important que ces fausses doctrines, ces doctrines étrangères, ces fables, ces généalogies interminables, eh bien, ne soient plus présentes dans l'assemblée à Éphèse. Et quels sont les dangers, au fond, actuels? C'est les doctrines étrangères, nous savons qu'elles entraînent les disputes, comme on l'a dit. On s'écarte, on se détourne. Il y a une expression aussi on va plus avant dans l'impiété. C'est-à-dire, au fond, le but du diable, c'est de nous entraîner dans l'impiété, c'est-à-dire que nous n'ayons plus cette relation avec Dieu, cette relation avec le Seigneur, jour après jour. Et nous voyons que ces doctrines étrangères, donc, entraînent ces choses et qui nous amènent plus avant dans l'impiété. Donc, l'apôtre Paul, c'était extrêmement important que de telles choses ne soient plus enseignées à Éphèse. Et alors, quels sont les dangers actuels? Les dangers actuels dans la chrétienté, eh bien, c'est une indifférence croissante à la vérité. Et il faut reconnaître que si nous regardons autour de nous un peu, eh bien, beaucoup de dénominations chrétiennes, et il y a cette indifférence croissante à la vérité. Et dans l'Épître à Jude, il nous est dit qu'au dernier temps, il faudra sans doute combattre pour la vérité. Et dans le monde en général, actuellement, il y a ce climat de tolérance. Tolérance au mal, le bien, le mal, on ne fait plus aucune différence. Et nous avons affaire dans un monde où la notion du bien et du mal disparaît, ou presque disparue. Eh bien, le danger, c'est de nous laisser gagner par l'indifférence croissante à ce qui peut ternir la vérité, et aussi être tolérant quant à la vérité. C'est-à-dire, si la vérité est remise en question, est-ce que nous pouvons être tolérants? L'apôtre Paul, il ne laissait pas passer la chose. Là. Pour lui, c'était vital, parce que à Éphèse, les Éphésiens, frères et sœurs, allaient être entraînés justement par le fait que si on laissait faire, et plus avant, ces généalogies, ces fables, etc., eh bien la relation avec Dieu allait tout doucement disparaître. Et donc, quelle transformation dans l'assemblée entre l'Épître aux Éphésiens, et si Éphèse se laissait gagner par toutes ces fausses doctrines, eh bien, les choses allaient de mal en pis. Ce qui a été dit tout à l'heure sur la conscience, que la conscience doit être formée ou éclairée, on a dit. Et nous savons que si nous tolérons le mal dans notre vie, eh bien notre conscience, eh bien, elle sera de plus en plus cautérisée, deviendra de plus en plus insensible. Et plus nous serons en contact avec Dieu, par la parole de Dieu, par un exercice de prière journalier, eh bien notre conscience sera d'autant plus sensible et nous pourrons avoir cette bonne conscience, c'est-à-dire une bonne conscience, c'est une conscience qui n'a rien à cacher à Dieu.
Je ne veux pas paraphraser, mais simplement faire remarquer la fin de l'ordonnance. C'est l'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Nous désirons tous certainement témoigner cet amour que dont nous sommes les objets de la part du Seigneur. Cela est dans notre cœur à tous. Nous avons besoin même d'être remplis de cet amour. Et c'est très intéressant de voir que cet amour ici procède de ces trois choses. Et certainement que nous avons besoin dans notre vie pratique de demander ces choses. Que le Seigneur nous travaille pour avoir ces trois choses, le cœur pur, la bonne conscience et la foi sincère. Mais je voudrais faire remarquer que lorsqu'on a une foi sincère, nous n'avons plus, comme nous l'avons dit, rien à cacher à Dieu, et du coup, notre conscience va devenir bonne. Une bonne conscience, c'est-à-dire une conscience qui se place devant Dieu. Et quand nous avons notre conscience qui est placée devant Dieu, tout simplement dans une foi sincère, eh bien nous allons avoir cette envie que le Seigneur nous purifie le cœur. Que notre cœur soit purifié des choses que nous avons remarquées par notre conscience et par notre foi. Et alors, n'ayant plus rien en nous qui retient cet amour, nous pourrons le témoigner à d'autres.
Je voudrais rappeler dans Romains chapitre 5, il nous est dit que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, le croyant a reçu dans son cœur cet amour de Dieu par l'Esprit Saint. Et pour extérioriser cet amour, il y a trois canaux. Le premier canal, comme il est dit, c'est le cœur. Le deuxième canal, c'est la conscience. Le troisième canal, c'est la foi. C'est-à-dire pour que je puisse manifester à l'extérieur de moi-même cet amour que Dieu a versé dans mon cœur, eh bien, aucun de ces canaux ne doit être obstrué. Et si je n'ai pas un cœur pur, eh bien le canal de mon cœur, il va être obstrué par une idole, par exemple, et je ne vais pas pouvoir extérioriser cet amour vers les autres, vers le Dieu, vers le Seigneur. Le deuxième canal, c'est cette conscience. Si je n'ai pas une bonne conscience, c'est-à-dire que j'ai des péchés qui ne sont pas jugés dans ma vie, eh bien ce canal de la conscience va être obstrué et je ne vais pas pouvoir extérioriser cet amour que Dieu a placé dans mon cœur, le sien, cet amour, l'amour de Dieu dans mon cœur. Et si je n'ai pas cette foi sincère, si j'ai une foi hypocrite, eh bien ce canal va être aussi obstrué et je ne vais pas pouvoir manifester cet amour de Dieu que Dieu a placé dans mon cœur vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de mes frères et sœurs. Donc, ce que nous dit l'apôtre, eh bien, pour avoir de l'amour entre nous, eh bien, il faut qu'aucun de ces canaux ne soit obstrué, il faut que nous ayons un cœur pur. Il faut que nous ayons chacun une bonne conscience et une foi sincère. Si nous manque un de ces trois éléments, eh bien, il y aura sans doute une perte dans nos relations entre nous. Il y aura peut-être de l'affection, mais il n'y aura peut-être pas cet amour qui se réjouit avec la vérité.
grâce en la marche de la foi, ma vie est languissante. Vous pouvez chanter le cantique 84.
84.